Bonsoir à tous. On m'a dit que les entrepreneurs avaient été convoqués pour venir écouter aussi cette situation des permis F. Combien il y a d'entrepreneurs dans la salle? Qui est là comme patron d'entreprise? Ah ben, ça va bien fonctionner. Hein. C'est bien, hein. C'est un peu le but de cette discussion, donc c'est pas un débat contradictoire, c'est une discussion autour de cette situation-là, du permis F, avec ce titre « Admission provisoire ou exclusion durable », avec cette contradiction avec le terme « provisoire ». On va essayer de discuter pendant une trentaine de minutes avec ces quatre intervenants, peut-être sur deux aspects, les difficultés d'aujourd'hui et puis les mesures qui ont été prises et qui sont à prendre pour améliorer tout ça aussi pour les patrons d'entreprise. Ensuite, vous entendrez aussi le témoignage de deux personnes qui sont des permis F, qui sont ici en Suisse depuis 14 et 7 ans et qui vont donner leur situation avec des personnes qui sont en recherche d'emploi. Peut-être commencer avec vous qui avez fait cette exposition à partir d'un constat et d'une étude. Le titre permis F, admission provisoire ou exclusion durable, est-ce que c'est trop provocateur? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ce terme de provisoire doit être banni du vocabulaire suisse? Il a été refusé par le Conseil des États récemment de le bannir. Le Conseil national a accepté, mais le Conseil des États n'a pas voulu bannir ce terme-là. Est-ce qu'il est provocateur ou c'est la réalité? Donc, peut-être pour les entrepreneurs qui ne connaissent pas ce qu'est un permis F, qu'est-ce qu'un permis F?
Alors, un permis F, on va commencer par le début. Le permis F, c'est un permis qui est délivré aux personnes qui arrivent en Suisse, déposent une demande d'asile, on leur dit « vous ne remplissez pas les critères pour être reconnu comme réfugié ». Qu'est-ce que c'est qu'être reconnu comme réfugié? Si on parle de l'admission provisoire, on est obligé de parler de ceux qui obtiennent justement le statut de l'asile. Pour être reconnu comme réfugié, il faut pouvoir prouver qu'on est en danger dans son pays d'origine, dans le pays qu'on a fui, pour des raisons, et là on a cinq raisons, c'est soit des raisons liées à la race, à la religion, aux opinions politiques, à l'appartenance à un groupe social déterminé, et, qu'est-ce que j'ai oublié?
Et il ne faut pas prouver, mais faire crédible.
Rendre crédible, avec des preuves matérielles.
Parce que prouver, c'est très difficile.
Rendre crédible ces éléments.
Rendre crédible avec des preuves matérielles, enfin... Disons que la définition du réfugié, elle date de la Convention de 1951, et ces critères sont quand même assez stricts. Il y a une notion aussi de persécution qui vise directement la personne concernée. Ça veut dire que si, par exemple, on fuit une situation de violence généralisée, c'est le cas d'un grand nombre de Syriens qui arrivent jusqu'en Suisse, ils ont fui une situation de violence généralisée, ils n'étaient pas directement persécutés pour des raisons d'opinion politique, par exemple, ils ne vont pas obtenir l'asile, ils vont obtenir l'admission provisoire.
Le permis F.
C'est une suspension de la décision de renvoi. Ce n'est pas en droit, ce n'est pas une autorisation de séjour. Donc on dit votre renvoi n'est pas exigible parce que la situation de votre pays d'origine est celle qu'on connaît par exemple en Syrie. Ça peut être aussi d'autres motifs, mais ça c'est la grande majorité des personnes qui sont titulaires d'un permis F.
Aujourd'hui en Suisse, on peut dire, vous avez dit, M. Gneza, il y a 50 000 réfugiés. Et il y a 40 000 personnes qui ont un permis provisoire, à peu près, c'est ça, les chiffres suisses.
Tout à fait, et puis c'est très important de le dire, parce que même si je dis que cette soirée est très importante, les permis F, le racisme, etc., mais il faut quand même dire aux entrepreneurs, surtout qui sont ici, qu'il s'agit aussi des réfugiés reconnus, ceux qui restent pendant toute leur vie en Suisse, 50 000 personnes qui cherchent du travail. C'est pour ça, l'admission provisoire, vous avez raison de le traiter aujourd'hui ici, mais ça, c'est très important. Et maintenant, moi, j'ai un mandat, puis j'ai discuté avec 50 entrepreneurs en Suisse, des très grandes entreprises, avec 6-7 000 ouvriers, et avec des toutes petites, hein, et avec la gastronomie, avec tout le monde. Et maintenant, c'est mon mandat, peut-être on en reviendra, de voir... Qu'est-ce que l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens? Est-ce qu'il en veut l'engager ou pas? Et quand il ne les engage pas, pourquoi est-ce qu'il ne les engage pas? Et qu'est-ce qu'il désire du canton et de la confédération? Ça, c'est un peu mon rôle maintenant. Mais pas seulement pour les amis.
On va se situer dans les chiffres pour que vous situez bien. Il y a 20% de ces 40 000 ou ces 50 000 qui ont un emploi, les autres n'ont pas d'emploi, en moyenne suisse à peu près. En Valais, il y a 1700 personnes qui sont concernées par le permis F, donc qui ont été... pas reconnu par l'asile, mais qui a un permis provisoire. Et ce permis provisoire peut durer entre quelques années, et même 20 ans ou 15 ans, on discutera tout à l'heure. C'est cette particularité-là. Donc juste revenir à cette notion de permis F, la notion de provisoire qui n'en est pas une. Le 90% de ces personnes restent en Suisse. C'est ça. juste que les gens comprennent bien.
Oui, c'est ça. Il reste durablement en Suisse. Et effectivement, il y a cette incohérence de l'intitulé du statut. On appelle ça une admission provisoire, alors que dans les faits, les personnes restent là durablement, voire définitivement. En fait, la majorité de ces personnes réussissent parce qu'elles trouvent un travail, parce qu'elles remplissent les conditions d'intégration, etc. Elles réussissent à obtenir un permis B, un autre statut. Mmh. Plus la naturalisation, parce que maintenant la loi sur la naturalisation a changé. Auparavant, elles pouvaient se naturaliser. Actuellement, elles peuvent obtenir un permis B. Puis...
Alors, vous avez rencontré une vingtaine d'entre elles dans le cadre de votre exposition, de votre étude. Dans combien de cas, le fait d'avoir un permis F, c'est rédhibitoire pour avoir un travail? Et c'est un argument principal.
Alors, c'est quelque chose qui est ressorti de plusieurs manières, mais souvent, c'est face à l'incompréhension de certains employeurs. Et c'est normal, en fait, les employeurs ne sont pas tous des experts en droit des étrangers. Et il y a quelque chose dans ce statut qui induit un peu en erreur, l'intitulé provisoire. C'est un fait. Après, effectivement, les personnes qui ont un permis B, les réfugiés, font face aussi aux problèmes de reconnaissance des diplômes, aux problèmes de maîtrise de la langue, aux problèmes de discrimination à l'embauche. Ça, c'est des problèmes qui touchent également les réfugiés, puis je dirais même tous les étrangers. Mais il y a quand même, avec l'admission provisoire, je pense, une difficulté supplémentaire, et pas seulement je pense, en fait, les chiffres montrent aussi qu'après 10 ans de séjour, les personnes qui ont un permis F sont 25% à travailler, alors qu'après 10 ans de séjour, ceux qui ont un permis B sont 50%. C'est quand même le double. Donc le problème, c'est aussi quand cette admission provisoire est durable, et là, on rentre dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que les critères restent les mêmes, et il n'y a aucune perspective de retour après 10, 15 ou 20 ans de séjour, et pourtant, si elles ne remplissent pas les conditions d'indépendance financière, ces personnes ne pourront jamais obtenir un permis B. Et c'est là qu'il y a
un problème. En Valais, Mme Poffet, depuis une année et demie, vous occupez de l'insertion professionnelle de ces personnes. Donc il y a vous avez créé cet institut en Valais, cet organe dans l'office de l'asile, où vous êtes en contact avec des entrepreneurs et vous dites il faut prendre telle ou telle personne, telle ou telle personne. Par rapport à votre expérience depuis une année et demie, dans les contraintes, on va parler après des mesures qu'on peut faire, mais dans les difficultés, est-ce que cette notion de permis F est la difficulté principale, ou alors, comme toute personne étrangère, la langue, la connaissance du milieu économique, toutes ces choses-là passent bien avant cette notion de permis F et cette notion de provisoire? On voit bien qu'il n'y a rien de provisoire, c'est des gens qui sont là pendant très longtemps.
Alors, je dirais que le permis F, c'est un frein parmi d'autres freins. Mais c'est le frein qui est très ressenti fortement par les personnes qui sont concernées par ce permis F et pour lequel elles se sentent très impuissantes. La langue, elles se rendent bien compte que c'est un frein, mais elles savent qu'on peut suivre un cours de langue, s'améliorer, etc. Ce permis F, c'est quelque chose pour lequel elles ne peuvent rien faire, a priori, pour changer cette situation. Donc c'est un frein parmi d'autres, évidemment la langue, évidemment la situation économique dans les secteurs dans lesquels on aimerait travailler, la méconnaissance des employeurs par rapport à ce permis. Et puis notre travail, il est double, il est par rapport aux requérants, enfin aux personnes au permis F, il est de les coacher, il est de faire avec eux un projet de vie, un projet professionnel. Et puis de l'autre côté, d'informer les employeurs. Donc on est là, et je suis contente de voir qu'il y a quelques employeurs parmi la salle.
Mais comment vous faites ? Vous avez votre liste tous les jours, puis vous faites vos téléphones à tous les patrons que vous connaissez pour dire j'ai telle ou telle personne qui sait faire ça, qui sait faire ci. Comment ça se passe concrètement ?
Alors, presque. Ouais. D'un côté, on a les personnes pour lesquelles on a défini un projet, je ne sais pas, travailler dans la peinture. Et là, on fait des recherches d'employeurs dans la peinture. On commence généralement par un stage. Il faut évidemment se confronter au travail dans la peinture en Valais. Et puis, dans tous les domaines, on cherche. Dans ce cas-là, on fait des contacts avec les employeurs. Et dès qu'on parle de permis F, sa question vient assez vite sur « mais quel est leur permis ?», on rassure tout de suite. Et on rappelle qu'un employeur aujourd'hui, il n'a pas de raison de ne pas engager quelqu'un qui a un permis F. Il n'y a pas de bonne excuse pour ne pas engager un permis F. Donc on rassure de ce côté-là. Les démarches avec notre bureau, elles sont simples. On prépare les demandes d'autorisation de travail, l'employeur n'a plus qu'à signer sur la feuille, et après, le processus suit son cours.
Est-ce qu'un an et demi, il y a des résultats plus probants qu'avant, où il n'y avait pas cet organe de recherche?
Alors moi, j'ai peu de retours, vu que ça fait bientôt 3 ans que je suis là, mais de mes collègues qui sont dans les foyers, dans les bureaux d'accueil, qui sont dans les centres de formation, le BOTSA, disent, en tout cas, j'ai entendu que la coordination au niveau cantonal, elle porte ses fruits pour un seul message, pour mobiliser, mais moi-même et mes collègues, on fait aussi maintenant un travail de terrain où on va voir spontanément des entreprises, on prend contact, c'est un petit peu Voilà, on choisit en fonction des secteurs qui nous paraissent porteurs. Parce que l'économie en Valais, c'est pas la même chose que le tissu économique à Genève ou dans un autre canton. Mmh. Et on va spontanément en faire des visites et puis rencontrer les employeurs. On le fait aussi, c'est le bâton de pèlerin, je crois que c'est obligatoire. Vraiment, l'information, on doit informer. On était la semaine dernière à l'Assemblée Générale de Vitival. On va aux Assemblées Générales, on essaie de contacter les menuisiers, les peintres, les c'est égal, pour faire de l'info, de l'info.
Oui. Et puis les gens qui ont un contrat ou qui rentrent dans un contrat, est-ce qu'il y a un taux de réussite élevé ou il y a beaucoup d'échecs? Les gens arrêtent de travailler parce que c'est pas leur truc ou dans les gens que vous placez?
Alors, les gens que l'on suit, généralement, le taux de est assez stable, hein, mmh. L'emploi reste, évidemment, parce que pour eux, il y a toujours ce graal de permis B si je deviens indépendant financièrement. Donc c'est très fort, l'effet carotte sur le permis B. Donc ils souhaitent vraiment travailler, puis ils souhaitent vraiment sortir de l'aide sociale. Ça c'est très puissant. Donc d'être indépendant financièrement, c'est quelque chose qui est très, très important. Je ne veux plus venir à l'assistance, je ne veux plus venir au bureau d'accueil pour ça. Donc le taux, il est bon. Maintenant, il y a un taux d'échec, enfin, qui est probablement semblable pour des jeunes en apprentissage, par exemple, semblable à des Suisses en apprentissage. Voilà. Parce que ce n'est pas toujours la bonne voie.
Madame Schla, est-ce que vous visionnez ça sur toute la Suisse? Est-ce que fait le Valais là?
Absolument,
là,
je hoche la tête quand j'entends dire ça, parce que c'est ce qu'on entend de tous les cantons.
Oui.
Donc notre travail au SEM, on accompagne en fait les 26 cantons dans la mise en œuvre de leur programme cantonal d'intégration. Une partie de ce programme concerne effectivement l'intégration sur le marché du travail des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés reconnus. Et ce qu'on entend qui porte ses fruits maintenant depuis 4 ans et demi, maintenant qu'on a ces programmes, c'est le bouche à oreille. Le fait que ça fonctionne vraiment très très bien, c'est bouche à oreille. On voit dans l'évolution en fait du taux d'employabilité, vous disiez tout à l'heure 20%, on est un petit peu plus élevé que ça, je regardais mes chiffres.
À combien? 30?
On est à peu près à 30% sur la totalité des admis provisoires qui sont en Suisse. Le Valais correspond à peu près à cette moyenne nationale et d'autres cantons sont plus hauts. Alors il y a Obwald qui est à 60% je crois de taux d'emploi des personnes admises à titre provisoire.
Les Grisons.
Les Grisons ont un très bon taux. Il y a quelques cantons qui...
On
essaie de s'expliquer ça, il y a différentes raisons. Alors je pense qu'une des raisons c'est ça, c'est ce bouche à oreille qui, notamment on constate ça dans les petits cantons, dans les cantons qui ont un tissu économique, beaucoup de petites entreprises avec le patron qui va s'engager, où on va pouvoir le convaincre et puis il va aller convaincre ses collègues, etc. Et ça fonctionne effectivement extrêmement bien.
Vous avez dit qu'il n'y avait plus de contraintes pour un patron d'entreprise. Il avait juste à signer au fond, mais jusqu'à cette année, il y a beaucoup de contraintes. Monsieur Gneza, vous avez dirigé l'office d'immigration. Jusqu'à cette année, il y avait un retranché de 10% du salaire des permis F pour qu'il y ait été versé à la Confédération. Ce n'est plus le cas. Vous m'avez dit aussi que dans certains cantons, un patron d'entreprise a peut-être, dans le canton de Berne, il y a trois offices différents, trois portes d'entrée différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, un patron d'entreprise a encore trop de contraintes pour engager un permis F?
Je ne vais pas le dire pour le Valais, hein, je ne vais pas le dire, je ne vais pas critiquer le Valais, mais si vous demandez les entrepreneurs, je vous ai dit, j'ai parlé avec 50 entrepreneurs, des grands, des petits, ils vous disent, écoutez, il y a des cantons comme le canton de Berne, où j'habite, il y a 3 ou 4 offices qui sont compétents. Un entrepreneur, on pourrait tout à l'heure demander les entrepreneurs ici présents, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un employé qui sait un peu la langue, dépendant où il travaille. Il veut qu'il a la motivation et il veut quelqu'un du canton, pas 10 offices ou 2, un office, une personne lui disant, écoute, cette personne, monsieur Ahmed de la Syrie, qui est ici reconnu comme réfugié ou admis provisoire, ce monsieur, il connaît le métier, il a déjà fait ça, il a appris la langue ici et là, tu peux le prendre. C'est ça l'entrepreneur.
Il veut qu'on n'a pas fait ça.
Madame Profond le fait, je l'ai dit, c'est ça qui est important. La deuxième chose que j'ai rencontrée dans les interviews pour mon rapport, c'est que les entrepreneurs disent, il y en a des gens, hein, qui, les Anglais disent soft skills, c'est-à-dire des gens, des jeunes qui viennent d'une autre culture. Vous leur dites à 8h le matin, il faut travailler. Nous allons tous à 8h travailler. Pour quelqu'un, et ce n'est pas de mauvaise volonté, il faut lui dire, écoute, ici en Suisse, on commence à 8h. Alors, c'est le job coaching. Les entrepreneurs disent que si c'est quelqu'un du canton, si c'est Caritas, si c'est une NGO, ça n'importe. Mais que l'entrepreneur dit, si, si nous avons un problème certain avec cette personne, homme ou femme, je veux un numéro de téléphone pour quelqu'un qui connaît cette personne, au moins au début.
Il faut cette proximité-là. Voilà. Et en termes de salaire, comment ça se passe? Est-ce qu'on paye la même chose à permis F qu'à un employé normal?
Ça, c'est très différent. Par exemple, domaine construction, domaine nettoyage, beaucoup d'entrepreneurs vous disent on va payer le même salaire comme un Suisse ou un étranger qui fait le même travail. Pas de problème. Il y en a d'autres entrepreneurs, surtout dans l'hôtellerie, dans la restauration, qui vous disent, écoutez, au début, n'est-ce pas, si quelqu'un veut travailler dans la cuisine ou si quelqu'un est dans le service, c'est déjà différent. Parce que dans le service, vous devez parler la langue, vous devez avoir connaissance. Peut-être dans la cuisine, un peu moins. Et ça dépend un peu là où ils disent que le canton, la confédération pourrait au début aider un petit peu, si quelqu'un gagne par exemple 2500 francs ou 3000, que le canton au début, les premiers 6 mois, ce que les Grisons font, ou la première année, que le canton paye la moitié du salaire et à la fin, l'entrepreneur le reprend définitivement ou pas. Et au canton des Grisons, ça joue, hein. On a vécu ça, ils ont 55% qui travaillent.
Il y a un risque de dumping salarial avec ça, hein, ou de salaire à... C'est l'État qui paye, ou de dire, c'est un bon exemple, parce que c'est l'État qui paye un peu, mais après, il y a une concurrence.
Moi, j'ai l'impression que
c'est les salaires qui sont trop bas.
Une répartition des risques aussi, parce qu'un employeur, effectivement, il prend un risque à quelque part. Hein. Souvent, il dit, je ne sais pas, cette personne d'Afghanistan, là, je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir communiquer avec elle, est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir peut-être un souci, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y a une part de risque, et de dire, finalement, on va partager ce risque. Et de dire, y a aussi des cantons qui ont mis en place des subsides à l'embauche, donc pas une partie du salaire, mais juste de dire, on va couvrir des frais qui pourraient arriver au début parce qu'il faut une petite formation interne, parce qu'il faut un cours de langue, parce qu'il faut ci, parce qu'il faut ça, pour que ça marche et pour qu'on rentre dans le processus. Et moi, je pense que là, c'est vraiment, c'est pas du tout une histoire de je veux quelqu'un qui me coûte moins cher. Je pense que c'est vraiment pas ça. Je pense que l'entreprise a envie de s'engager, mais qu'elle attend qu'on la soutienne là-dedans, qu'elle a besoin d'une relation de confiance avec l'État. Et moi, il y a quelque chose que je voulais dire. J'ai vu une étude qui n'est pas encore parue, je crois, que l'OCDE a fait en Allemagne. Ils ont demandé à des employeurs pourquoi vous engageriez un réfugié, ils n'ont pas d'admis provisoire en Allemagne, mais pourquoi vous engageriez une personne de l'asile. Et des employeurs qui ne l'avaient jamais fait ont répondu en majorité, je le ferais pour la société, par une cause humanitaire ou parce que je trouve ça important, etc. Et quand on demande à des employeurs qui ont déjà engagé un réfugié, la réponse était différente. Ils disaient, je le ferai parce que c'est une personne qui apporte quelque chose à mon entreprise, parce qu'elle a un potentiel.
Vous avez dans vos témoignages à vous, Mélissa Lorenz, vous avez aussi ce genre de constat-là. Il y a une différence une fois qu'on a commencé à faire un emploi ou une fois un emploi, dans la perception des gens.
Oui, puis je crois que cette motivation particulière liée aux droits qui pourront être débloqués une fois que l'indépendance financière sera acquise, ça, il ne faut pas le minimiser. Puis bien sûr aussi, ce qu'apporte au sein d'une entreprise la multiculturalité, je pense qu'il y a aussi cet atout-là qu'il ne faut pas oublier. Et que ce soit pour le regroupement familial, que ce soit les gens qui ont un permis F ne peuvent pas sortir de Suisse, ils ont interdiction de voyager. Sauf à certaines conditions, et ces conditions-là, ça marche que s'ils ont leur indépendance financière aussi. Donc l'indépendance financière, c'est vraiment quelque chose qui est clé en fait pour les titulaires de la mission provisoire, et je pense que c'est vraiment un moteur pour l'intégration, à condition qu'il y ait une réception aussi dans...
Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers de ce que vous dites? Parce que vous dites que le permis F, quelque part, c'est un sucre pour aller vers le permis B. Alors autant laisser le permis F longtemps, comme ça, la personne est toujours motivée. Et puis, pour finir, ça dure des années et des années.
Non, mais
pour
finir, c'est pas non plus...
Non, je vous avais dit avant ça, Madame Profet, vous avez dit que c'est un côté motivant pour dire on veut sortir de ça. Et puis, est-ce que ça explique pourquoi on dit quelque chose de provisoire qui dure 10 ans? Politiquement, on ne peut pas prendre position en disant on met tous des permis B. Politiquement, c'est pas possible. Au Conseil national, aux États, ça passe pas. Mais qu'est-ce qu'on doit faire sur cette solution provisoire? Est-ce que c'est justement le fait de toujours dire bientôt tu vas voir, puis les gens sont toujours motivés, puis finalement, 10 ans après, ils sont toujours en permis F? Voilà, il y a ce côté-là ou pas ?
Il y a un mythe des gens qui ont envie d'être à l'aide sociale et de se croiser les pouces. Ça, c'est complètement faux. Ça, les gens n'ont pas envie d'être dépendants, d'être assistés. Ils ont envie de se sortir de ça et de participer à la vie locale. Mm-hmm. Ça, c'est la réalité.
Sur la durée du permis F.
Alors, les statistiques, effectivement, qu'on a, les études qu'on fait, montrent que les permis F, donc c'est à partir de 5 ans qu'on peut demander une procédure de cas de rigueur, et donc, avec beaucoup de chance, hein, c'est pas facile, obtenir un permis B. Et on voit que, dans les statistiques de taux d'emploi, c'est à partir de 5 ans que ça monte assez conséquemment, parce que c'est effectivement là qu'on se dit « Ah ben là, maintenant, si je suis indépendant financièrement, j'ai des chances d'obtenir ce permis B. » c'est un effet un peu pervers, c'est triste à dire. Je pense pas qu'il faut garder le permis F parce que c'est une motivation à l'intégration, je pense pas du tout ça. Je voulais dire encore par rapport à cette motion au Conseil des États la semaine passée, le 14 du 3, le Conseil des États a quand même approuvé une motion qui vise à changer le nom, donc pas à changer le statut.
Il faut se mettre d'accord sur le nom.
Voilà,
c'est ça, mais pas le statut, mais il ne faut plus le mot provisoire, c'est ça.
Il ne faut plus appeler ça provisoire, il faut appeler ça admission, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, ce n'est pas un changement de statut, mais c'est au moins un changement de nom, donc c'est une chose positive. Et l'autre chose qui est vraiment problématique, et là on s'engage nous à l'intégration depuis longtemps pour ça, c'est de pouvoir faciliter le changement de canton. Parce que le changement de canton n'est pas possible pour des personnes admises à titre provisoire ou chez la tête. Effectivement, si on est attribué, c'est un requérant d'asile est attribué à un canton, et une fois que la décision est prise, qu'il reçoit son admission provisoire, il doit rester dans ce canton. Et si vous imaginez un petit canton, la personne trouverait un travail dans un canton juste à côté, eh ben, elle ne pourrait pas changer de canton, elle ne pourrait pas aller habiter dans le canton à côté. Enfin, elle peut, mais il faut que les deux cantons soient d'accord de faire ce changement. Enfin bref, c'est hyper compliqué au niveau administratif. Et si on peut changer ça, je pense que ça a déjà un intérêt.
Il y a un autre changement qui est en cours, monsieur. Mais ça, c'est le montant qu'on attribue au canton pour l'intégration d'une personne. Hein. Aujourd'hui, c'est à peu près 6 000 francs par personne, c'est ça?
Je voulais d'abord être très critique avec les cantons.
Voilà.
Soyez pour une fois que je ne suis pas d'accord avec les dames, les trois, ou un peu plus critique. Non. Le statut d'admis provisoire, la Confédération paye tout les premiers 7 ans, nourriture, hôpital, tout. Et en plus, 6 000 francs pour l'intégration. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que dans le temps, quand j'étais directeur, on avait 10 000 requérants d'asile par année. On n'a pas tellement remarqué, ils ont trouvé le travail. C'était beaucoup plus facile qu'un jour où vous avez 40 000 par an. Ça, c'était le cas il y a 2 ou 3 ans. La Suède avait 90 000 et puis les Allemands avaient 800 000. Alors, je veux dire par là, quel est le côté courageux d'un canton de dire maintenant on va vraiment faire tout qui est dans notre possibilité pour intégrer si la Confédération paye tout pendant 7 ans. C'est pour ça, maintenant ça change. Mais maintenant, la Confédération a remarqué aussi que les cantons font leur boulot, ils sont en train de faire leur possible. Et là, le canton et la Confédération, Madame Somaruga, se sont mis ensemble pendant 2 ans. Ils ont fait un rapport en disant le montant pour l'intégration de 6 000 francs, ça ne suffit vraiment pas. Et ils ont raison. La Confédération donnera au canton les 18 000. Le Conseil fédéral doit encore le décider, je pense au mois de mai, au mois de juin.
Les chambres aussi.
Les chambres aussi à la fin, mais là aussi, on a une motion du Conseil aux États qui va dans cette direction. Les conseils aux États disent, écoutez, Confédération, nous devons donner plus au canton pour l'intégration. Alors je pense que c'est la bonne chose.
Pourquoi c'est un prix qui est... Pour qu'on comprenne bien, 18 000 francs par personne, pourquoi c'est un bon investissement, d'après vous?
C'est un très bon investissement. Je vous donne un exemple. Ce que les entrepreneurs me disent, et ils ont absolument raison. J'exagère maintenant. Vous avez une femme érythréenne, par exemple. Ce n'est pas de sa faute d'être analphabète. Elle vient ici, elle est analphabète, mais elle est reconnue comme réfugiée admis provisoire. L'autre côté, vous avez un Afghan, un médecin, qui vient aussi dans les centres d'asile de la Confédération et des cantons. Pendant une année, des fois 2 ans, rien ne se passe. pourquoi est-ce que, et ça c'est les entrepreneurs qui me disent, il faut faire cette reconnaissance des qualités de cette personne pour après les mettre beaucoup plus vite au marché. Cette femme érythréenne analphabète pour les cantons, pour les Caritas et pour les NGO et tout le monde, c'est la langue, il faut apprendre ça avant d'avoir un job. Mais pour le médecin, peut-être, il peut déjà travailler dans un home pour les vieux, dans un hôpital comme assistant, etc. C'est ça qui est important. Et avec cet argent qu'on augmente de 6 000 à 18 000, il y a 3 000 pour qu'on examine ça dès le début, pour les gens qui peuvent rester.
Il n'y a pas ce bilan de compétences au début aujourd'hui. Il n'y a pas cette prise en charge tout de suite de savoir est-ce qu'on fait un bilan de compétences pour savoir comment on traite les différentes personnes selon les compétences qu'elles ont. Parce que ça va trop longtemps avant de savoir ça. C'est trop de hasard dans la répartition des requérants, c'est au hasard des cantons. On ne sait pas si quelqu'un qui est horloger va à la Neuchâtel ou quelqu'un qui est un touriste va à la Valais. Mais il n'y a pas ça, c'est le hasard qui fait que les personnes sont en Valais, à Neuchâtel.
Il y a eu une étude d'ailleurs qui est assez récente, sauf erreur, qui a fait ça avec des logarithmes, etc., qui a essayé de calculer quel serait le taux d'insertion professionnelle si on avait placé les requérants dans le canton en fonction de leur profil. Et le taux serait extrêmement intéressant au niveau de la langue, au niveau de leurs compétences, comme on le disait. Le tissu économique en Valais, c'est pas la même chose qu'à Genève. Donc en fonction de son parcours, on aurait peut-être plus de chances d'être inséré sur le marché du travail à Genève ou en Valais. C'est la réalité que si ce n'était pas si aléatoire, il y aurait des meilleurs résultats. Bon, ça, c'est...
On prend ça très au sérieux, Sam, avec ses études. Et oui, alors on a à cœur aussi la répartition aléatoire actuellement des requérants dans les cantons. Essaye d'éviter aussi de créer des ghettos. Alors évidemment, si on envoyait tous les francophones qui viennent d'Afrique dans le même canton, on créerait une espèce de communauté ghettoisée, ce ne serait pas forcément idéal non plus. Mais effectivement, on prend ça très au sérieux. Il y a une chose aussi qu'on ne fait pas systématiquement au SEM dans les procédures d'asile, c'est qu'on ne s'intéresse pas à savoir en fait quelle est la formation et l'expérience des personnes. Parce que quand elles arrivent, c'est la procédure d'asile, donc il faut savoir rendre crédible leur motif d'asile, et c'est ça qu'on regarde, et on ne va pas commencer à demander à la personne bon, « vous avez travaillé comme menuisier dans votre pays, etc. » Et ça, c'est aussi une question qu'on est en train de regarder, puisque vous savez que les procédures d'asile vont complètement changer à partir de l'année prochaine, puisqu'il y a une restructuration complète du système, de voir ce qu'il est possible de faire, et ce qu'il est possible de faire aussi pour peut-être améliorer la répartition, que ça soit moins aléatoire et peut-être du coup améliorer les chances d'une insertion professionnelle.
Est-ce que la forte augmentation du nombre de demandes ces dernières années, est-ce que ça a changé l'attitude des entrepreneurs en disant « oui, il va y avoir beaucoup, on va avoir peur de ça », est-ce qu'il y a eu ces éléments-là, il y a eu ces craintes-là dans le monde économique ou même dans la population, il y a eu ces éléments-là, mais maintenant il y en a moins, qu'est-ce que vous avez comme impression là-dessus? Le fait qu'on est passé de 10 000 à 40 000, est-ce que ça a changé un peu le... Avant, on ne se rendait même pas compte, c'était dilué, puis ça passait. Est-ce qu'il y a quand même un sentiment de... Je ne sais pas si c'est de racisme, on peut le dire, ou c'est la semaine contre le racisme. Est-ce que vous avez ressenti ça ou pas du tout? Il n'y a pas du tout ces éléments-là.
Au niveau du canton, je pense que, évidemment, ça crée une peur. Enfin, voilà, le mythe d'une invasion. Alors, on est sur un pourcentage qui est faible par rapport à la population, on est bien d'accord. Mais grâce, il y a quand même eu, je dois le dire, dans les médias, des bons articles, il y a eu des reportages qui ont mis aussi des visages. Et c'est ce que je reviens souvent par rapport aux stages que l'on fait chez des entreprises ou les rencontres avec des patrons. On entend un chiffre. Mais qu'est-ce qu'on sait? 2800 personnes, ok, je comprends, mais c'est quoi la population de Champlan? Mais à part ça, qu'est-ce que... Alors on met des visages sur la migration. Et du coup, c'est plus 2800 personnes, c'est Pierre, Paul ou Jacques. Et puis, on casse cette espèce de peur de c'est une personne, c'est un jeune. Et puis, on fonctionne avec maintenant on a bien monitoré les personnes. On sait, on a fait, vous parliez avant, est-ce qu'il y a un bilan de compétences qui est fait à l'entrée? Alors oui, aujourd'hui, vraiment, au premier niveau, en foyer d'accueil, puis les personnes sont en appartement, dans les bureaux d'accueil, etc., là, on a un grand travail avec tous les partenaires. Il y a interne, donc les assistants sociaux, les profs, les chefs d'atelier, etc. Toutes les personnes qui entourent, on a bien répertorié les personnes, où elles en sont, qu'est-ce qui est possible. La garde d'enfants doit être rassurée pour trouver un travail, mais par contre, on a peut-être des cours de langue ou des ateliers qu'on peut proposer, on fait un vrai bilan de la personne et puis qu'est-ce qu'on envisage. Évidemment, un certain nombre vont pouvoir être envoyés dans notre bureau pour un coaching. On ne peut pas absorber non plus toutes les personnes. Par contre, il y a un travail qui peut être fait en amont. Et ça, je trouve qu'à tous les échelons, ce travail il est fait au niveau du bilan. Puis on dit aussi, quand c'est nécessaire, ce n'est pas le moment tout de suite, l'insertion professionnelle. Bon. Il y a la langue, il y a la santé, qui est quand même un grand facteur. La santé, on règle d'abord ces étapes, et puis après, on y va sur l'insertion professionnelle. On met le paquet en termes de ressources humaines pour ça. Mais je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les personnes, on ne sait pas où elles sont et on ne sait pas ce qu'elles font.
Ça, c'est sur ce sentiment-là, quand il y a eu cette augmentation du monde d'Orkera, est-ce que vous avez senti ça dans vos témoignages, des gens qui se disaient qu'il y avait un autre sentiment qui était plus difficile de s'intégrer, ou bien pas, sur cette crainte de dire qu'il y en aura trop, on était trop loin, il y a trop de gens qui viennent. Il y a eu ça ou il n'y a pas du tout eu ça? Vous avez senti
c'est
ça,
pas quelque chose qu'on a observé directement. Après, il faut aussi dire qu'il y a eu une augmentation en 2015. Depuis, il y a eu une baisse drastique du nombre d'arrivées, du nombre de demandes d'asile. On en parle beaucoup moins, mais la baisse, elle est vraiment significative. Il y a toujours cette crainte que si les conditions sont améliorées, est-ce que ça ne créerait pas...
Un appel d'air.
Voilà.
Je dis moi.
Je ne peux pas le dire. Ouais. Et je crois que c'est pas une bonne chose de penser comme ça, dans le sens où on se tire une balle dans le pied en n'améliorant pas les conditions de vie, en permettant pas aux personnes qui restent en Suisse de participer, alors qu'il y a la volonté. C'est gagnant en fait, et pour les personnes et pour les entrepreneurs qui bénéficient d'autres expériences. Par rapport à la reconnaissance des diplômes, c'est vrai qu'il y a un énorme problème. C'est quasiment impossible pour un extra-européen de faire reconnaître un diplôme universitaire. C'est impossible. Donc il y a ce problème-là. Et puis je me suis perdue.
Je ne suis pas perdu parce que je dois vous contredire aussi, attention. Ce que vous dites, en règle générale, est juste. Toutes les craintes, maintenant on aura centaines de millions qui viennent en Suisse, c'est pas correct. Vous avez tout à fait raison. Mais attention, je vous rappelle la Suède. La Suède, j'étais ambassadeur international pour l'immigration, j'ai posé à mes questions suédois. Mais pourquoi est-ce que vous dites que chaque Syrien, dans le temps, qui met ses pieds sur le territoire suédois, est reconnu comme réfugié et il peut rester pendant toute sa vie avec le regroupement familial? La Suède avait, dans une année, comme un pays assez petit, 90 000 personnes. C'est pour ça que je vous dis, il faut aussi comprendre les États qui disent qu'il faut avoir certaines procédures. On a la Convention de Genève, notre loi sur l'asile, il faut faire correctement cela. Il y a les gens qui ont de la protection, il faut les protections, qui doivent avoir la protection. Mais si vous ouvrez et dire chaque personne du monde qui veut venir en Suisse peut venir et rester, c'est très difficile. Ça, alors là, quand vous avez commencé avec le titre « Contre le racisme », je ne dirais pas, il y a des racistes en Suisse comme partout dans le monde, j'ai retrouvé partout, mais il n'y en a pas beaucoup en Suisse. En Suisse, c'est plutôt la crainte qu'on est submergé après par les étrangers et les mouvements populaires de droite en Europe. Qu'est-ce que c'est l'AFD en Allemagne? Qu'est-ce que c'est en Norvège? Vous avez même un parti de droite populiste au gouvernement, à Danemark. Il y a 20 ans en Europe, où ils étaient où? Ils n'étaient pas là. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi politiquement faire un peu attention en disant les craintes sont pas là de la population. Oui, ils sont là. Si vous avez des parents qui ont des étudiants, des enfants, ils ont payé l'impôt toute leur vie. Hein. Excusez-moi, moi je ne suis pas membre de l'UDC, hein, mais il faut aussi avoir des arguments. Écouter les autres, hein, écouter les autres arguments. Je les écoute en disant vous avez des parents ici qui payent les impôts. Les enfants étudient, et puis après, il y a une jeune femme allemande, française, qui vient et qui pique le job et leur enfant n'a pas de poste. J'exagère un petit peu, mais il faut aussi faire un peu attention, surtout à la campagne, dans les endroits ruraux. C'est encore un peu dans les gens, hein. Il faut pas.
Mais face à ça, oui. Mais face à ces préjugés, il y a aussi les faits. Il y a aussi les faits, et les faits, c'est que le domaine de l'asile, réfugiés, demandeurs d'asile et admis provisoires confondus, c'est moins d'1% de la population. En 2015, oui, quand on était à des chiffres beaucoup plus élevés, on a atteint les 1% de la population résidente. Donc il y a aussi des faits. Et puis c'est sûr, un sentiment qui existe et qu'il faut entendre, mais auquel on peut répondre aussi avec des chiffres.
C'est ce que je fais avec la démographie. Il faut aux entrepreneurs, il faut dire aux entrepreneurs, si j'ose,
oui.
Madame Merkel, elle a dit il y a 3 ans, j'ai besoin de 6 millions des employés qualifiés. Nous en Suisse, l'Allemagne a 80 millions d'habitants, la Suisse 8 millions, et on a exactement la même chose. On aura besoin, dans les 10 ans qui viennent, de 600 000 ouvriers qualifiés. Et on a biffé 500 000 des ouvriers moins qualifiés en Suisse les 10 dernières années, et on a créé le même montant, 500 000 des ouvriers qualifiés. C'est pour ça, aux entrepreneurs, je dis ça. Écoutez, ces gens, les réfugiés reconnus et les abris provisoires, ils sont déjà ici. Il ne faut pas les chercher en Sicile ou en Allemagne. Ils sont là. Alors, mettons-les sur le marché du travail. C'est ça l'argument. Parce que un jour ou l'autre, les Portugais, vous avez entendu, les Portugais rentrent. Le Portugal, il va beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Ils rentrent. Alors, où chercher aussi dans l'hôtellerie et dans le tourisme des gens qui travaillent? Alors ça, il y a des réfugiés qui peuvent faire cela.
Madame Schreis, peut-être avant d'entendre les deux permis F, les témoignages, où mettre le curseur? Parce qu'on a entendu, il y a la crainte, il y a la réalité, c'est 1% de la population. Les craintes qui sont exprimées par monsieur qui existent aussi. Où on met le curseur quand on est à Berne? Où on met le curseur pour à la fois montrer qu'on peut travailler, que les contraintes administratives sont beaucoup moins là qu'il y a quelques années, et puis ça donne cette impression d'appel d'air que je n'aime pas du tout, j'aime pas du tout non plus.
Alors, d'abord, je voulais revenir sur les 1%. Alors oui, c'est juste, je ne sais pas si 1% c'est juste, c'était un petit peu plus, mais c'est vrai que le domaine de l'asile représente très peu de la population résidente, parce qu'en plus les requérants ne comptent pas dans la population résidente, hein, les permis N, qui n'ont pas encore eu de décision, sont dans la population non permanente, non résidente. Bref. Mais alors par contre, ce qu'il faut voir, c'est le chiffre quand on parle du solde migratoire. C'est-à-dire les personnes qui viennent en Suisse et les personnes qui repartent, parce que chaque année, il y a des personnes qui repartent de Suisse, par exemple les Portugais, il y en a beaucoup d'autres qui quittent la Suisse, et quand on regarde qui vient et qui part, la part de l'asile, évidemment, est plus que 1%. Là, je crois qu'on est près des 10%, puisque les gens de l'asile viennent et restent. Il y en a qui repartent, mais effectivement, la majorité qui viennent en Suisse demander l'asile reçoivent une décision. Je crois qu'actuellement, le taux de reconnaissance, le taux de protection, on parle du taux de protection, puisque c'est à la fois l'asile et l'admission provisoire, est à près de 50% des demandes. Et on a actuellement au SEM toujours à peu près 19 000 demandes en attente, qui viennent notamment de cette année 2015, où on avait énormément de requérants d'asile qui sont venus déposer une demande. Et la pratique du SEM est de traiter en priorité les demandes qui ne sont pas motivées. Donc les 19 000 qui sont encore en attente chez nous dans nos dossiers, c'est probablement des gens qui vont obtenir une admission provisoire ou même l'asile, mais plutôt une admission provisoire. Donc ça juste encore pour les chiffres. Et puis après, vous avez
dit... Il est passé juste en Suisse, il n'est pas passé juste pour la Suisse.
Moi, ce que j'ai constaté, en tout cas, ces dernières années, au SEM, on a commencé à parler de l'intégration professionnelle des admis provisoires et des réfugiés, depuis qu'il y a eu cette vague, mot que j'aime pas du tout, mais effectivement, je pense que le premier moment où on a senti une différence, c'était lorsque le peuple a accepté l'initiative contre l'immigration de masse. Parce que tout à coup, on s'est dit, on parle de potentiel de main-d'œuvre indigène, et comme vous l'avez très bien dit, les personnes de l'asile, elles sont là, elles sont déjà des personnes indigènes, donc il faut utiliser leur potentiel, il faut exploiter ce potentiel-là avant d'aller chercher des Européens pour faire ces...
Alors, écoutez, deux de ces potentiels travailleurs, on va d'abord appeler Reza Kosko, iranien, qui est ici depuis 2012, qui a son permis F depuis 2015, je crois, qui a des qualités d'interprète assez élevées, ouvert par le curé français, mais qui aimerait être bijoutier orfèvre. C'est sa faute.
Ah, j'ai un peu peur de micro.
Pas de souci.
Bonjour. Bonsoir.
expliquer un peu votre parcours, pourquoi, comment vous êtes arrivé ici, qu'est-ce que vous avez comme difficulté.
Comme vous avez dit, hein, je ne répète pas encore, depuis 2012, je suis en Suisse. Je possède un admis provisoire depuis 2015. Mm-hmm. Et depuis, je suis activement en recherche d'emploi, donc je fais tout et n'importe quoi en même temps. Et voilà, donc maintenant...
Qu'est-ce qui est plus difficile pour vous dans la recherche d'emploi, par rapport à ce que vous avez entendu là? Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous...
Alors je vais me baser plutôt sur l'autre aspect, quand vous avez dit reconnaissance des diplômes, parce que pour moi-même c'était le cas, parce que j'ai le diplôme universitaire et tout ça, mais apparemment ça prend autant du temps que j'ai fait l'université pour les faire reconnaître. Préférablement je pouvais m'investir dans un autre domaine qui pouvait être beaucoup plus lucratif que celui que j'ai eu. Et deuxièmement, surtout le titre. Même avant d'entendre tout le monde, j'ai parlé avec votre collègue de Nouvelliste, qui m'a interviewé, et puis j'ai dit exactement les mêmes phrases. Donc c'est l'admis provisoire. On n'arrive pas à comprendre. Dans le cerveau, ça fait un effet provisoire, donc non, ça, celui-là, pas. Et puis j'étais victime il y a juste quelques jours. Quelqu'un qui m'a pas accepté dans le travail parce qu'il pensait qu'un permis F, c'est un permis... Voilà, bon, il ne servait pas.
Vous avez dû faire quoi? C'était une discussion avec un employeur, ou bien c'était simplement renvoyer votre dossier, puis permis F, on ne prend même pas la peine de vous rencontrer?
Bon, je vais parler dans les détails, parce que je n'ai pas envie que...
D'accord.
Voilà. Mais j'ai rencontré l'employeur, et puis il m'a dit que c'était à cause du permis, tout d'abord. Après, il y avait d'autres aspects aussi, bien sûr. Les indigènes, on a parlé, tout d'abord, ce que je respecte, dans le lieu. Bien sûr que quelqu'un qui habite à Genève, qui possède tous les matériaux, qui a travaillé sur le marché, qui connaît les réseaux, qui sait où trouver les matières premières, donc il est prioritaire que quelqu'un comme moi, même si je suis bien intégré, je parle, je pense bien.
Très bien, très bien. Très bien. Un peu fait par rapport à ça, ce côté de dire c'est provisoire, donc quand c'est provisoire dans la tête de ces personnes, c'est de dire on n'est pas là pour longtemps ou on va repartir. Est-ce que c'est ça le plus dur aussi psychologiquement, de dire tant qu'on n'a pas le regroupement familial, tant qu'on n'a pas ces différentes choses, c'est quelque chose qui complique la volonté, ou lui il a une volonté, mais de dire est-ce que ça complique toutes les démarches? Est-ce que simplement de changer le mot provisoire puis de mettre un autre mot, est-ce que ça va tout arranger? Je pense pas.
Alors, tout arranger, non, je pense pas non plus, mais c'est vrai que ce mot provisoire, il est vraiment terrible, parce qu'il donne une image qui est fausse de la réalité d'une personne qui va rester probablement toute sa vie en Suisse. Donc quand on veut construire quelque chose, avoir cette étiquette de provisoire, c'est compliqué. Et le cas de cette postulation que l'on a faite ensemble, le dossier est revenu, à peine arrivé, il était déjà revenu. On a essayé de contacter l'employeur de nombreuses fois, sans succès finalement. Donc M. Cochot est allé sonner à la porte de cette entreprise pour dire « J'ai postulé chez vous, comment ça se fait que... ?» Voilà. Et là, la réponse, alors on n'a pas tous les détails, mais entre autres, le permis F pour lui, c'était voilà, « Je ne peux pas, je sais pas qu'est-ce que je peux faire avec ce permis, est-ce que je peux l'engager ?» D'où le travail extrêmement important d'information, rappeler que ce permis F n'empêche en rien du tout l'engagement. Mais je pense que c'est encore une réalité. Et nous, on ne le voit pas forcément au bureau tout de suite, parce que évidemment les patrons avec lesquels on a un contact, on les rassure tout de suite sur le permis F. Donc c'est un argument qui est balayé très vite. Mmh. Après, il y a peut-être l'argument de la langue, l'argument du rythme de travail ou des compétences à acquérir. Ok. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est probablement tous ces employeurs où on postule, où on essaye d'obtenir des stages, par exemple, et qui nous disent non, sans explication. Et puis peut-être que là, derrière, il y a cet argument « Non, mais c'est des permis F, faut pas... » Alors là, on essaye de convaincre, évidemment, qu'un non sans explication ne nous satisfait pas tout à fait.
Les autres contraintes du permis F, c'est-à-dire pas pouvoir voyager, pas pouvoir le regroupement familial, ça pèse plus que les contraintes par rapport à la profession pour vous?
Personnellement, pas plus. Il y a d'autres aspects. Bon, j'ai encore... Je vous confirme, j'ai parlé tout à l'heure avec votre collègue, et je dis la même chose, par exemple, de pouvoir acheter une carte SIM ou, je sais pas, un abonnement mobile. bah, on emploie autre stratégie, on va aller frapper à la porte des amis, mais moi je le peux, mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Ça c'est clair. Au départ c'était très difficile aussi pour moi, mais après en connaissant les gens qui peuvent rendre service, ça pourrait être plus facile. Après, l'aspect de voyage, personnellement, c'est pas quelque chose qui nous dérange trop, parce que je pense qu'en Suisse on a énormément d'endroits à visiter avant d'aller en Italie ou en Autriche ou je sais pas, même en Valais, il y a des gens qui sont là depuis des années et qui connaissent pas, qui n'ont jamais allé voir, je sais pas, de glaciers, mais ils souhaitent aller voir Paris. Bon, ça c'est quelque chose de normal, mais c'est pas le plus important pour moi. Pour moi, c'est pas le plus important.
Le plus important, c'est quoi?
Personnellement.
Comment? Pour vous, le plus important, c'est quoi? Le plus difficile, c'est quoi?
Déjà, le titre. Ouais. Déjà, le titre. Et puis, après, il y a un autre aspect qu'on n'a pas vraiment parlé par rapport. Pour moi, c'est la transition d'un permis F à un permis B. Parce que ça, vous, je suis dedans. Et je pense que, bon, pour moi, ça fait 5 ans que je suis en Suisse, je n'ai pas encore démarré cette procédure, mais il me semble que ça ne va pas être facile, même en étant intégré, même en amenant des preuves qu'on est connu, je ne sais pas, où on a un travail, où on est totalement indépendant, ça a l'air compliqué, apparemment. Mais c'est ça qui est pour moi le plus important, encore plus important que le titre, parce que le titre... On peut faire comprendre avec des soirées comme ça, ou des séances d'information, ou des flyers, je sais pas, on peut le faire comprendre aux entrepreneurs ou aux gens normaux, mais... Ouais.
C'est trop difficile d'avoir permis B. C'est trop difficile de passer du permis F au permis B. Peut-être dans le chasse, ou je sais pas.
Ça a l'air compliqué. Je pourrais pas, moi, dire si c'est compliqué. Enfin, moi, je sais que c'est compliqué, parce que administrativement, ouais. C'est compliqué, mais psychologiquement, ce que ça fait chez les personnes, c'est peut-être plutôt vous qui avez vu ça dans vos techniques.
Oui, et bon, en fait, il y a des critères. Alors déjà, il faut avoir eu ces 5 ans de séjour. Il faut avoir une bonne maîtrise de la langue, la bonne intégration, évidemment, respect de l'ordre juridique.
Et l'indépendance financière.
Et c'est vrai qu'il y a cette... ce cercle un peu vicieux où les gens se voient, parce que vous avez parlé de cet endroit, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans les entretiens qu'on a pu faire, où les gens nous disaient, mais par oral, on m'a raccroché au nez, on m'a dit, ah non, mais les permis F, moi je peux pas, il y a 10% à payer, alors ça s'est tombé, mais disons qu'il y avait très souvent ce frein. C'est parmi les employeurs, mais c'est aussi dans la vie quotidienne. Vous avez parlé de la téléphonie mobile, pas pouvoir prendre un abonnement. Il y a des gens qui nous ont raconté que les régies immobilières avaient claqué la porte parce qu'elles étaient arrivées, et au moment où elles montraient leur permis, les régies disaient « Ah non, on ne travaille pas avec les permis F ». Il y a énormément d'obstacles, en fait, dans la vie quotidienne. Et puis ça, psychologiquement, en fait, le fait d'être ici, d'être accepté, on a reconnu le besoin de protection qu'on avait, on sait qu'on ne va pas retrouver dans notre pays, mais en même temps, on n'est jamais vraiment accepté. Il y a toujours des obstacles ou des éléments qui nous font sentir comme pas pleinement partie de la société. Puis ça, c'est extrêmement difficile. Et puis par rapport au voyage... nous on a eu par exemple l'exemple d'un monsieur qui avait des problèmes de santé, qui approchait l'âge de la retraite, donc la perspective d'emploi elle était quand même assez mince, et il voulait aller en Allemagne, pas pour visiter mais parce qu'il avait des membres de sa famille, des frères et sœurs qui étaient en Allemagne, et impossible après 15 ans de séjour en Suisse, impossible d'aller rendre visite à sa famille en Allemagne. Alors on dirait, bon, ils peuvent eux toujours venir, mais on a aussi l'exemple d'un monsieur qui n'a pas pu aller voir son père mourant dans un pays de la région d'où lui il est originaire. Son père était réfugié dans un pays de la région. Il n'a pas pu aller le voir parce que là aussi, un monsieur qui était proche de l'âge de la retraite, avec des problèmes de santé, donc pas vraiment de perspective d'emploi, pas d'indépendance financière, impossible de sortir de Suisse, même avec des arguments comme j'ai un papa qui est sur le point de mourir. Donc la mobilité, c'est vrai que... Je pense que c'est quelque chose, ça dépend les situations évidemment, mais parfois c'est vraiment un obstacle à la vie familiale et puis aussi à l'intégration. Quand on a ce poids-là, je pense que c'est difficile de se lancer dans un processus d'intégration, d'apprentissage de la langue, avec tout ce contexte. Et je pense que ça, il faut en être aussi conscient.
Oui, je voulais juste ajouter que Personnellement, le voyage n'était pas très important, mais je comprends que ça pouvait être important pour les autres. Mais vous, moi, je n'ai pas de membres de la famille ou des amis dans un autre pays européen. Ça ne paraît pas important pour moi, mais personnellement, parce que moi, je ne suis pas porte-parole des réfugiés ce soir. Si vous posez la question à moi, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce passage, et puis voilà, tout simplement ça, excusez-moi.
On entend maintenant Claudia Mavouli. Reza, restez ce moment-là, comme ça, si jamais il y a des questions.
Je peux juste quand même dire encore, oui, par rapport au permis d'aider, par rapport à ces cas de rigueur. Donc il y a quand même des chiffres qui montrent que, j'avais des chiffres de 2014, 60% des personnes avec un permis F finissent par obtenir un cas de rigueur et obtenir un permis B, donc c'est quand même une majorité. Donc même si c'est compliqué et que c'est dur à atteindre, on y arrive quand même.
C'est vrai que le problème, c'est quand il y a des problèmes de santé ou un agent. Et là, du coup, on reste coincé dans ce permis provisoire. On reste coincé toute la vie.
Claudia Mavouli, vous êtes à la catégorie provisoire.
60% y arrive.
12 ans, c'est juste.
Je
vais expliquer votre parcours de vie déjà.
J'ai eu à passer des moments un peu difficiles dans ce pays que j'aime tant. Et il s'avérait que ce n'était pas facile, c'était un parcours combattant tout le temps, sur le plan, je vais dire, déjà social, qui était très compliqué. Et des rejets, quand je suis arrivée en Valais, c'est difficile de croiser un Africain. On cherche, on ne trouve pas. Et puis après 5 ans, 10 ans après, il y a tant de personnes qui venaient. Donc pour dire que je suis là, ça fait déjà des gens, non. Et l'intégration, ça ne m'a pas posé de problème du tout. Parce que j'ai eu à m'intégrer vite avec auprès de l'espace interculturel de Serres. Et la langue ne m'a pas posé de problème du tout parce que dans mon pays, on parlait couramment le français, l'anglais et l'allemand. Ça dépend du degré d'étude. Donc, je n'ai pas eu de problème sur ce plan-là. Maintenant, venant sur le plan professionnel, c'était difficile. Et comme vous disiez, le frère, c'est difficile déjà d'acheter avec ça, son séjour. Moi, je n'ai pas eu à avoir le F tout de suite, j'ai eu le N. Et avec le N, c'est difficile déjà pour aller acheter dans un magasin. Et le pire pour moi, je n'ai rien contre quelqu'un, j'habitais en Valais, au Valais. Tout de suite après Valence, c'était au break. Je ne parlais pas l'anglais, rien du tout. C'est difficile d'acheter un magasin, de s'exprimer déjà. Donc il faudrait chercher à aller apprendre la langue, et c'est ce que j'avais commencé tout de suite à faire. Puis après, je commençais les cours de l'intégration à Botsa, plutôt à Ganzen. J'habitais à Gris, donc à Ganzen on allait faire les formations dans le nettoyage, l'entretien des machines de lavage et tout, la couture. Et puis quelques mois après, je suis tombée enceinte, et juste deux ou six mois après, tout de suite on a donné une décision que je quitte la Suisse avec la grossesse. Donc du coup, c'était difficile. Et l'enfant était né après, malade et tétraplégique. Et à la naissance, c'était difficile. On doit le reporter au moins deux fois, convoqué à l'aéroport pour me rapatrier dans mon pays avec le bébé. Du coup, le pédiatre a dû se battre comme un lion contre l'ODM pour que l'enfant puisse rester pour continuer les soins. Et c'était après, il était presque mourant, et Dieu merci, maintenant il va bien, il marche, et il a eu les soins. C'était difficile, très très difficile, et aujourd'hui il est vivant, il a bientôt 14 ans et il marche et il fait l'école spécialisée. Donc de mon côté, après, j'ai dû passer 13 années à la maison pour m'occuper, parce que on veut l'interner et c'est pas facile pour le moment d'abandonner son enfant. On l'avait déjà pris deux fois quand il était né tout de suite. Donc du coup, après que je l'ai récupéré, je me suis occupée, j'ai passé 12 et 13 années à la maison sans toutefois pas le vouloir, parce que j'ai pas eu d'autres possibilités quitte à avoir le choix de l'interner et de l'oublier, ou de s'occuper pour voir ce qu'il adviendra de le futur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de m'occuper, de passer mes 13 années à la maison, sachant très bien que je dois apprendre un métier ou bien faire une formation pour intégrer le domaine professionnel. Donc après qu'il a repris dans les 10e, 11e années après de sa vie, du coup, j'ai repris le courage de faire une formation. Et quand j'ai fait cette formation, c'était difficile pour moi. Déjà, ils n'acceptaient pas le permis F. Parce que le rejet, il y avait eu 3 fois. Et 2 fois, j'ai fait le recours. En 2004, j'ai fait le recours. En ce temps, j'ai travaillé à Moulins, à l'hôtel Panorama. On m'a accepté le recours. On m'a demandé de payer 600 francs à l'État. Et tout de suite, je n'ai pas encore eu mon salaire. J'ai demandé, j'ai été supplié mon employé de pouvoir payer cet argent pour que je puisse... pour que mon recours soit accepté, pour que je puisse avoir le permis B. Donc, quand on m'avait demandé cet argent, il a versé tout de suite parce qu'on m'a dit, si tu ne verses pas la totalité, mon recours serait caduque. Donc, j'ai dû verser la totalité des 600 francs. Et après, quand j'attendais la fin, on m'a renvoyé un dossier avec tout mon dossier complet, comme quoi je dois quitter la Suisse, ce que je ne comprenais pas. Et on me demandait de payer encore presque 300 francs pour les frais de dossier. Et j'ai fait donc en totalité en gros presque 1000 francs. Ils sont partis pour un résultat de 0 francs, de 0 possibilité. Et malgré ça, je ne suis pas découragée.
Vous avez un permis F aujourd'hui ou un permis B?
Non, toujours pas. J'ai eu le permis F. Donc du coup, j'ai repris un avocat après 2 années. Et un avocat privé qui a dû se battre encore, comme il le renvoie est toujours effectif. Et il a demandé à ce qu'on régularise la situation, vu que l'enfant est né avec un problème... De santé. Donc on a dit mon dossier d'asile est clos puisqu'on a renvoyé le dossier, donc on s'occupe du cas humanitaire de l'enfant. Donc le cas humanitaire de l'enfant avec le recours nécessite un permis B pour que l'enfant ait un permis B humanitaire. Et quand le résultat est tombé après une année d'attente, 13 mois d'attente, il s'avérait que voilà, le canton Valais m'a donné le F, qu'ils ne sont pas capables, ils ne veulent pas me donner le B, qu'il faut que j'aille travailler pour avoir le B. Et ce qui vient croiser les 5 années de résidence en Suisse, pour qu'un immigré qui est venu 5 années de résidence, il a droit à un permis B. Donc tout ça, c'est parti pour un permis F. Donc depuis 2006, j'ai le permis F jusqu'à maintenant.
Et maintenant, vous cherchez du travail?
Je cherche du travail depuis 2014. Que j'ai travaillé déjà dans le champ, ça fait bientôt 10 ans. Je travaillais avant ma formation. Et depuis que j'ai le permis F, je pose. Parce qu'il faut dire qu'avant, je travaillais en privé chez les particuliers. Je n'ai pas de problème. Et la personne qui m'avait pris sous son aile, c'était une infirmière anesthésiste dont je m'occupais. J'avais aidé une amie. Et du coup, il voyait comment je travaillais. Il m'avait pris sous ses ailes. Il m'a montré, il m'expliquait les choses. Il me voyait dans le soin. Et par rapport à ses conseils et son aide, j'ai accepté de faire travailler dans le soin, de faire la formation en soin. Donc, c'est d'ailleurs elle qui m'avait payé mon premier cours. Et malheureusement, avec la santé de l'enfant, je n'ai pas pu avoir la tête froide. Donc, en 2014, j'ai relancé pour refaire la formation. Et finalement, j'ai eu le diplôme. Et depuis 2006, que j'ai eu le permis F, je ne connaissais pas, je ne vois pas venir les entraves de ce séjour. Puisque je ne suis pas dans le quotidien chaque fois de chercher l'emploi. Et quand j'avais décidé de chercher l'emploi, maintenant s'ajoutaient des problèmes vraiment difficiles.
Lesquels? Le plus difficile, c'est lequel? Peut-être comme dernière question pour réagir. Le plus difficile aujourd'hui pour trouver l'emploi, c'est quoi?
C'est avec le permis F, ça passe pas. J'ai beau rafraîchir le dossier, rafraîchir mon CV, mettre toutes les expériences que j'ai faites, ça passe pas. Ça passait pas du tout. Déjà, tu peux pas acheter un AT, tu peux pas acheter un puce. Tu ne peux pas sortir de la Suisse et viens maintenant s'ajouter ce problématique de s'intégrer dans la vie de professionnel. Ça, je trouve que c'est comme voyant trop et puis sauter là-dedans, quoi. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que ça me coûte, tout ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat, que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'expérience qu'on me demande, j'ai le diplôme qu'on me demande, mais je suis rejetée partout.
Je connais ça, on est 50 entrepreneurs, vous avez trouvé, vous trouvez une place de travail.
Ce n'est pas à moi de trouver un travail. Non, je ne vais pas contester ce que madame dit. Hein, je dois vous dire quelque chose pour ces voyages à la maison. Il y a une idée derrière cela. Surtout pour les gens qui sont reconnus comme réfugiés. Si je dis, moi, je suis persécuté par le gouvernement iranien, politiquement, et je reçois l'asile en Suisse, c'est quand même pas normal que je rentre dans un État qui m'a persécuté. C'est ça, la philosophie de la loi et de l'accord
de Genève pour les réfugiés, c'est ça. Si vous êtes persécuté, vous ne rentrez pas dans l'État où vous êtes persécuté.
Vous pouvez voyager ailleurs.
Peut-être. Ça, c'est une autre question. Mais pas dans l'État où vous êtes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, juste pour vous dire encore une fois ce que j'ai dit au début, je partage les critiques du statut F. Ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste.
C'est trop long.
Mais, pourquoi est-ce que les réfugiés reconnus qui n'ont pas ce statut, qui peuvent travailler, qui sont ici, restent toute la vie, qui sont reconnus, ils n'ont pas plus de chances sur le marché du travail? Alors, il faut réfléchir à cela. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs ne prennent pas les réfugiés reconnus, les armées provisoires?
Pourquoi?
C'est la même chose. Pourquoi? Je suis entrepreneur. Je cherche un mécanicien. Je connais en Ovalais un ami qui a un fils qui est mécanicien. Je le prends. Il a fait 3 ans d'apprentissage. Je cherche un cuisinier. Hein? Et c'est un Italien qui postule, qui sait très bien cuisiner. Je prends l'Italien. Non, je parle maintenant dans la philosophie d'un entrepreneur et ce n'est pas une mauvaise réflexion qu'il a. Mais il faudrait lui dire, écoute, maintenant, on a aussi des réfugiés reconnus qui ont fait ce stage en Valais, qui ont fait les cours d'allemand ou de français. Il sait faire ce métier-là. Tu peux le prendre, aie confiance. Si tu n'es pas content, tu reviens vers le canton et tu dis, vous m'avez envoyé quelqu'un qui n'est pas compétent du tout, alors reprenez-le. C'est ça qui m'occupe. Hein. Ce n'est pas seulement les admis provisoires, mais sur les autres, ce n'est pas meilleur. Sur le marché du travail.
Madame Poffard, une dernière question à tout le monde avant la question de la salle, quand on terminera. Conseiller à Claudia.
Bon, elle est déjà en l'occurrence suivie par un de mes collègues au sein du bureau. Et puis évidemment que notre travail est aussi de poser la question là où elle a déjà été en emploi, parfois pour des remplacements, pour des courtes durées. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une suite? Soit est-ce que c'est vraiment un congé maternité, puis il n'y a pas d'autre place, bon, et puis le poste est repris. Mais je crois qu'elle fait déjà tout juste, dans les postulations, je pense que vous avez déjà postulé à peu près dans tous les EMS du Valais. De ce côté-là, c'est, le travail est fait. Maintenant, c'est aussi à nous, mais je pense que la plupart de ça a déjà été fait, de contacter ces employeurs et leur demander pourquoi. Et est-ce que c'était vraiment le permis F qui fait qu'elle n'a pas été engagée pour la suite à vérifier. Mais je pense que conseiller Claudia... Aujourd'hui, elle a fait déjà, elle a le diplôme Croix-Rouge d'auxiliaire de santé. Elle a travaillé, elle a de l'expérience, il y a eu des stages, il y a eu de l'emploi. C'est déjà le parcours. On est sur la marge, c'est ce qui est le plus difficile, la marge. Faire des stages, former dans les langues, c'est ce que disait Laurif à leur 70 ans la semaine dernière. On travaille à la marge. Et c'est ça le plus difficile, c'est le dernier pas. C'est pas tellement trouver une formation ou un stage, c'est l'emploi. Que l'employeur soit d'accord, dire ok, moi je le paye parce que la sous-enchère salariale, elle est impossible. Le service du travail surveille chaque demande d'autorisation de travail. Donc, on ne peut pas payer moins un admis provisoire qu'un Suisse au même poste. On est d'accord, au même poste, même niveau de qualification. Donc, c'est la marche qui est difficile. C'est pourquoi ce passage vers l'emploi ne se fait pas.
Alors, je vais vous demander un truc très difficile pour terminer. C'est une mesure à prendre qui n'est pas prise pour augmenter ces 30% aujourd'hui. Hein, pour augmenter ces 30%, on avait dit, M. Clézard, en préparant la discussion, que quelqu'un qui n'avait pas d'emploi, qui arrivait en Suisse à 20 ans, qui restait en Suisse, coûtait pratiquement 1,4 million de francs à la communauté. Donc, les entreprises, le canton, la confédération ont tout intérêt à employer ces personnes. Elles sont là, il faut les employer. Moi, j'aimerais vous entendre sur une mesure qui n'existe encore pas ou qui va être mise en place, qui pourrait, peut-être une mesure principale, qui pourrait augmenter aujourd'hui ce taux de 30% qui est, d'après vous, ridiculement bas. Je peux voir qui on commence, par vous, comme ça, mesdames, terminerons. Une mesure qu'il faudrait prendre aujourd'hui.
Une mesure, c'est le canton qui fait le job coaching, qui va vers les entrepreneurs en disant, écoutez, ce monsieur, cette femme, elle sait quelque chose, elle a fait l'apprentissage, prenez-la, nous sommes là, nous accompagnons cette personne depuis des années. Et j'en suis certain que les entrepreneurs ont confiance. Ce que j'ai rencontré, dernière phrase, j'ai pas eu un seul entrepreneur qui m'a dit « je ne suis pas motivé, je ne vois pas de responsabilité ». Personne. Tout le monde a dit « on a la motivation, mais ça doit être moins compliqué ».
Un peu fait une mesure.
j'aurais rejoint en fait spontanément l'idée du job coaching, donc vraiment d'accompagner les gens et de fidéliser les employeurs. C'était juste, peut-être que la première essai avec une personne, ça ne marche pas.
Mais 40 000 permis-F en Suisse, il faut combien de job coaching? Il faut combien de personnes pour faire ça? Est-ce que vous avez les moyens de faire ça? Est-ce qu'il y a les moyens dans le canton du Valais? Il y a 1700 permis-F, vous êtes toute seule même.
Non, alors on est pour l'instant une petite équipe, voilà. Mais l'équipe qui est déjà existante, elle est mobilisée en vue de l'insertion professionnelle. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, c'est à tous les échelons que les gens ils sont mobilisés. Ce n'est pas seulement les 5, les 6 collaborateurs du bureau d'insertion.
Vous avez mobilisé tout le monde avec cette coordination cantonale.
Évidemment. Ouais. Ah ouais. Donc les moyens, les personnes sont là. Évidemment, on pourrait peut-être engager 50 job coach. Mais si c'est pour appeler les mêmes entreprises, enfin, ça ne va pas, c'est pas du but.
Madame Schleiss, une mesure?
Moi, j'aimerais dire un verbe, c'est persévérer. Mm-hmm. Et je pense qu'il faut, on est sur la bonne voie. Je crois qu'on est sur tous les niveaux en train de travailler là-dessus. Les niveaux des employeurs, alors les employeurs s'engagent beaucoup. Nous, on a constamment des employeurs, des branches professionnelles qui nous contactent, qui veulent faire quelque chose, qui sont très actifs. Au niveau des cantons, au niveau des communes, un engagement très fort. Et au niveau politique, alors vous l'aviez mentionné tout à l'heure, les discussions qui sont en cours maintenant au niveau Conseil fédéral avec les cantons pour augmenter ces forfaits à l'intégration pour soutenir les mesures d'intégration. Je crois qu'on est vraiment sur la bonne voie et je crois qu'il faut juste persévérer là-dedans parce qu'il faut que tous ces efforts se rejoignent pour qu'on y arrive. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas demain si l'admission provisoire ne s'appelle plus admission provisoire mais qu'elle s'appelle autrement, ça ne va pas résoudre le problème. Le problème, c'est qu'il y a une difficulté d'accès au marché du travail pour une certaine part des migrants en Suisse, et ce n'est pas que l'asile, hein, je pense aussi aux personnes en regroupement familial, par exemple, qui viennent d'États tiers, et je pense que là, il faut mettre tous les efforts en commun pour augmenter le taux d'employabilité.
Juste un mot sur une nouveauté, les pré-apprentissages, ça commence à la fin de cette année?
Oui, cette année les pré-apprentissages d'intégration, c'est une des mesures qu'on a mis en place au niveau fédéral pour pousser un petit peu dans le sens où on sait depuis longtemps que la formation, c'est ce qui rend l'intégration professionnelle durable. C'est si on a une formation qu'on va pouvoir rester aussi sur le marché du travail. Et qu'en Suisse, c'est très difficile d'accéder à un emploi stable et bien rémunéré si on n'a pas une formation. Donc avec le pré-apprentissage d'intégration qui va démarrer en septembre dans les cantons qui nous ont déposé un projet, on va soutenir pendant 4 ans des projets d'après-apprentissage dans des branches professionnelles qui vont pousser, donner la possibilité à des personnes avec un potentiel d'arriver à faire un apprentissage et donc avoir un CFC ou en tout cas une AFP pour ensuite être intégré durablement.
Il y a un projet en Valais.
Oui.
Et en règle générale, ça coûte la Confédération 55 millions de francs. La Confédération a donné pour ce au COP.
Un mot d'affaire, peut-être à Mélissa Lorenz, peut-être après à nos deux témoins, une mesure.
C'est trop difficile de dire une mesure. Non, on a parlé des mesures d'insertion, on a parlé de l'importance de ce tissu local, des personnes qui font le lien, qui remplacent en fait le réseau dont disposent les gens qui ont grandi ici, étudié ici, etc. Ça, c'est vrai que c'est important. L'appellation du titre de séjour plus proche de la réalité. Oui, je crois qu'on a parlé de ces mesures-là. Et puis peut-être des perspectives de transformation du permis qui, quand il n'y a pas de possibilité de retour, qu'on sait que le séjour sera durable après un certain nombre d'années, peut-être des critères plus souples pour ne pas se retrouver pendant... dans cette incohérence d'avoir un permis, une admission provisoire pendant 25 ans.
Mmh. Un mot peut-être aux employeurs qui sont là. Claudia et Reza pour terminer. Vous êtes employeurs dans la salle. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à un employeur aujourd'hui? Claudia. Un mot.
Moi, j'aimerais dire, derrière le permis F, il y a toute une vie qui est derrière le permis F. Mmh. Il n'y a pas qu'une image d'humain, il y a une grande potentialité, il y a une grande volonté de faire quelque chose dans ce pays, notre pays d'accueil, qui nous a tant donné et que nous aussi on voulait vraiment donner. Et que ces entrepreneurs, quand ils nous voient, ils voient le séjour, qu'ils voient plutôt celui qui est derrière le séjour, pas le séjour qui est devant. Parce que moi je disais que ce serait dommage que l'État nous a donné quelque chose que nous, on ne serait pas en mesure de donner quand on est capable de donner. Mmh. Et que ces potentialités meurent en nous et que voilà, on devient une charge à l'État. Vivre à la charge de quelqu'un, ça n'a jamais été une joie pour quelqu'un. Surtout, en tout cas, moi je dis personnellement, ça n'a jamais été une joie pour moi parce que j'ai mes valeurs, j'étais pas élevée comme ça. Et c'est, je fuyais même le bureau. Si mon assistant social lui dit, je ne voulais plus aller, qu'aller à la même place pendant une quinzaine d'années et rentrer dans le 16e année, c'est juste pas recevable, quoi. Donc, les entrepreneurs, moi je vous demanderais vraiment de considérer les gens qui proposent les dossiers et les mettre en épreuve. Que de considérer le séjour qui est sur leur dossier.
Reza, un mot à ajouter ou... Plus difficile, il faut conclure.
Oui, merci. Si vous cherchez un bijoutier. non, franchement, je n'ai pas grand chose à dire. Tout le monde a abordé tout ce qui est important. Surtout, cet aspect du permis F, c'est vrai que ça ne va pas changer tout, le nom de l'appellation. Mais ça va améliorer beaucoup de choses, je crois, au niveau psychique chez les migrants aussi. Parce que d'avoir dans la tête le mot provisoire, ça donne pas trop envie, même qu'en réalité on sait que c'est pas vraiment provisoire, mais ça donne pas trop envie à tout le monde de s'investir dans la vraie vie. C'est tout simplement ça.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? Un apéritif après, je crois même.
Est-ce que tous les permis F sont obligatoirement, je sais pas comment on dit, affiliés à un bureau d'insertion professionnelle ou est-ce que c'est un choix de leur part ou une décision qui se prend à un moment donné?
Alors, c'est généralement chaque personne qui est à l'Office d'asile ou bien à la Croix-Rouge Valais, en fonction de leur statut, a un assistant social ou une assistante sociale. Et c'est cet assistant social qui annonce la personne au bureau quand elle estime que cette personne elle est vraiment prête pour l'insertion professionnelle. Mais maintenant, on a beaucoup de choses qui sont entreprises déjà avant l'insertion, avant le bureau. Si nous, on est complet, en guillemets, on prendra toujours 10 jours. Mais si on est un petit peu complet en termes de suivi, l'assistant social connaît toutes les mesures qu'on peut mettre en place et puis peut déjà entreprendre des choses. Donc, si nous, on a une demande d'un employeur qui arrive directement au bureau, on va déjà regarder dans nos dossiers si on peut répondre à la demande de l'employeur. Si on ne peut pas, on transmet la demande au bureau de la région concernée qui va faire le tour de ces dossiers. Puis, éventuellement, au bureau des régions environnantes. On a quand même des bureaux Martigny-Sion-Sierre, le Haut-Lac, Saint-Jean-Golf, Vouvry, et le Haut-Valais, évidemment. Donc, et si vraiment, vraiment, il n'y a personne au sein de l'Office d'asile pour répondre aux besoins de l'employeur, après, c'est un appel au CMS ou après l'ORP, enfin, traditionnel. Mais on couvre tout le canton. Donc si le BIP, parce que c'est l'abréviation de notre bureau, le BIP, c'est simple et efficace, on ne peut pas répondre à une demande d'un employeur. De toute façon, on transmet la demande aussi. Donc, si des employeurs souhaitent nous appeler demain, j'ai justement 15 places de travail, on ne pourra peut-être pas répondre après-demain. Parce que trouver les personnes qui correspondent aux besoins, ça prend du temps, vraiment, pour que ça marche. Ça prend du temps. Et parfois, on va peut-être proposer 15 personnes ou 17 personnes, et peut-être que certains, ça marchera, certains pas. Donc, il faut aussi être un tout petit peu indulgent sur la durée pour qu'on trouve les bons candidats pour vos places de travail, parce qu'on est confronté à ça. On a besoin d'un tout petit peu de temps. Mais on finit par trouver... Je connais des personnes qui sont dans cette salle qui ont un profil extrêmement intéressant au niveau asile, avec des passés d'ingénierie, etc., qui n'ont pas pu faire reconnaître leur diplôme, qui ont recommencé ici dans des formations. Et là comme disait Claudia, il y a le permis F, il y a un passé derrière avec des compétences transversales qui sont vraiment très intéressantes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Juste, moi, je voulais quand même revenir, s'il vous plaît, sur la question du provisoire. Parce que quand on est entrepreneur, enfin, moi, je bosse pour la ville de Sion, puis j'ai jamais eu de dossier avec des permis F. Je ne sais pas si ce serait autorisé d'ailleurs. Mais la position du recruteur, c'est celui de minimiser les risques. Alors, il y a le risque d'avoir la mauvaise personne, parce que ce n'est pas la personne qui correspond au poste, mais il y a le risque aussi que la personne parte après 3 mois. Puis quand vous avez un titre avec provisoire, vous dites, mais cette personne, je ne vais pas l'engager, puis après 6 mois, elle va se faire envoyer, parce que je vais devoir reprendre la procédure et tout faire. Donc, combien, parce que vous dites, tout le monde reste, mais il faut expliquer ce soir, il y a des renvois, il y en a combien? Il y a quel pourcentage? Est-ce que c'est ridicule? Comme ça, on peut dire, mais non, mais les permis F, ils partent pas, ou très peu. Parce que le risque, c'est de devoir... C'est des coûts pour les employeurs de devoir mettre en place ces procédures d'engagement.
les statistiques que je disais tout à l'heure, donc les 60% qui obtiennent un cas de rigueur et qui obtiennent donc un permis B et qui restent, dans ces mêmes statistiques qui étaient de 2014, il y avait aussi 15% qui partaient, mais parmi eux, il faut dire qu'il y a aussi des gens qui partent volontairement. Donc il y a des gens qui sont là avec un permis F, et au bout de quelques années, la situation dans leur pays s'améliore, et puis ils se disent, je vais rentrer. Donc il y en a qui partent aussi volontairement, donc ce n'est pas des gens qui doivent partir, mais des gens qui quittent le pays.
Donc 90% des permis F restent ici.
15, et puis il y avait encore un petit pourcentage, le reste là, qui se faisait naturaliser. Et ça ne sera plus possible malheureusement maintenant, puisqu'à partir de cette année, il faut un permis C pour être naturalisé. Donc les permis F ne pourront plus du tout opter à la naturalisation, à moins d'arriver au B et ensuite au C, enfin ça sera quasiment... Donc ça veut dire qu'il y avait, voilà, en gros, à peu près 10% de personnes qui repartaient, et en moyenne, la durée d'une admission provisoire était de 3 à 4 ans, mais en comptant des personnes qui, effectivement... changent de statut, mais ça serait...
Ah, après, donc ça veut dire que de 3 à 4 ans, ils avaient un permis F. Après, ils ne sont pas renvoyés, ils obtiennent un permis B.
Voilà.
Et par contre, le nombre de personnes où il y a une levée d'admission provisoire, ça, les chiffres...
Il n'y a pas beaucoup.
C'est une centaine de
levées qui doivent partir.
Voilà. On leur dit, vous ne remplissez plus les critères pour l'admission provisoire. J'ai essayé de chercher les chiffres, et puis en fait, les statistiques montrent les fins d'admission provisoire. Mm-hmm. Et puis en fait, fin d'admission provisoire, ça peut vouloir dire naturalisation. Enfin, ça pouvait vouloir dire naturalisation. Enfin, c'est changement de statut ou départ de Suisse volontaire.
Ou décès.
Ou décès, voilà, fin d'admission provisoire. Donc,
moi,
si on soustrait un peu, si on déduit par rapport à ce que vous avez dit, c'est des cacahuètes, en fait, les gens qui se font retirer une admission provisoire.
Moi, si vous permettez, une dernière information aux entrepreneurs, qui est, à mon sens, une des plus importantes, on ne l'a pas discuté. Il y a une nouveauté. Cet été, au mois de juin, si vous cherchez dans votre entreprise quelqu'un, dans certaines branches, vous devez aller devant les offices régionales pour le placement. Et d'après la nouvelle loi, les admis provisoires, on parle toujours négatif, une fois c'est un peu positif, hein, les admis provisoires et les réfugiés peuvent aussi être parmi ces gens que les offices régionales pour le placement vous nomment. C'est-à-dire que ça peut être un Suisse 55 ans qui est au chômage, hein, ils disent voilà, c'est ce monsieur, prenez-le. Ou bien c'est M. Ahmed qui a 22 ans, qui est syrien, qui est réfugié reconnu ou admis provisoire. Vous, les entrepreneurs, vous pouvez après choisir entre 3 et 4 personnes. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. On ne connaît pas le résultat. Hein. Il ne faut pas exagérer et dire que ça va améliorer beaucoup de choses. Mais quand même, c'est aussi nouveau un pas de la Confédération pour enlever toutes les barrières administratives.
Donc, si on répond quelques pourcents à...
Alors, j'ai trouvé le chiffre exact. En 2017, il y a eu 32 retraits d'admission provisoire.
En toute la Suisse.
D'accord. Le retrait...
Oui.
J'ai une question par rapport à l'obtention du permis B. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on a beaucoup parlé justement de ce... Il fallait 5 ans dans le pays, il faut avoir l'indépendance financière, mais comme avec le permis F, on n'arrive pas à avoir un travail, qu'est-ce qu'on fait justement de ce cercle vicieux, comme vous l'avez nommé? C'est un cercle vicieux, le serpent qui se fait en deux. Comment une personne qui est motivée, qui est là depuis plus de 5 ans, comment concrètement elle fait, qu'est-ce qu'elle fait comme démarche pour obtenir ce permis B?
Elle trouve un
travail. Oui, elle trouve un travail, justement, mais elle ne peut pas trouver parce que le permis F. Mais c'est que ça.
Elle peut trouver, mais il faut beaucoup d'efforts. Et je vous l'avais dit.
Un investissement dans l'investissement local.
À plus de 7 ans, en Valais, j'ai vu le chiffre que pour le Valais, un pointage, on a fait une photo à un moment donné. Des F plus de 7 ans, il y en a quand même 48% qui ont une activité lucrative. Je veux pas dire, oh, mais c'est extraordinaire, 50% des gens travaillent. C'est une photo à un moment donné qui peut tomber, je ne me rappelle pas de la date, mais c'est au plus tard été 2017, hein, c'est pas plus ancien que ça. On est peut-être tombé une période de vendange, et puis beaucoup de gens travaillent dans les vendanges, et du coup, on a le taux d'activité lucrative qui explose. Oui, évidemment, si on fait la même photo en décembre, la photo est un peu moins glorieuse, mais quand même, les fermiers trouvent un travail, je vous rassure, on va pas partir de là, de la tête en bas, on trouve un emploi. Mais c'est toujours cette marche, c'est toujours ces gens, comme on disait, qui ont soit juste pas l'âge, qui, voilà, si on a plus de 50 ans, c'est difficile. Si on n'a pas de garde pour ses enfants qui sont petits, c'est difficile. Si on n'a pas l'angle, la santé physique, psychique, etc. Et c'est toujours cette fourchette de personnes qui est difficile. Mais pour l'obtention du permis B, l'indépendance financière reste un critère.
T'as une dernière question, Véronique?
Peut-être signaler aux employeurs qui sont là ce soir que là on parle d'employabilité de personnes adultes en général, mais je pense que le problème se pose aussi pour les jeunes détenteurs de permis F qui en fait payent une double peine. Ils sont détenteurs d'un permis F alors même qu'ils sont parfois nés chez nous parce que leurs parents, n'ayant jamais réussi à accéder à l'indépendance financière, n'ont pas accès au permis B. Donc du coup, eux n'ont pas le permis B non plus. Donc le fait de trouver une place d'apprentissage pour ces jeunes relève vraiment du parcours de formation. Donc on casse souvent des jeunes qui sont vraiment dans leur dans une période de vie cruciale. Et je trouve vraiment qu'il y a un effort particulier à faire pour ces jeunes-là. Je signale aussi qu'en Valais, il y a eu tout un travail pour permettre aux jeunes détenteurs d'un permis F d'accéder aux bourses d'études. Ce postulat a été largement accepté par le Grand Conseil, mais malheureusement, le Conseil d'État, après analyse des conséquences, a choisi de ne pas offrir cette possibilité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, des jeunes permis F ne trouvent avec difficulté des places d'apprentissage, mais ça veut dire aussi que ces mêmes jeunes permis F qui ont des capacités au niveau intellectuel ne peuvent pas, par exemple, obtenir une bourse d'études à l'université hors canton. Donc c'est vraiment sans arrêt sur leur chemin, finalement, des embûches qui décourageraient n'importe qui.
Question d'employeur, José Costa.
Oui, alors moi, c'était juste que voilà, je recherche un agent de placement et j'ai un détenteur fermier qui travaille depuis 3 ans pour mon compte et il apporte vraiment une plus-value au sein de la société. Et tout se passe bien, moi, j'ai aucun problème.
Alors, on terminera sur ce beau témoignage. Je vais se conclure. Bravo, on peut être tout le monde.